I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Crise de temps pour une pellicule, pour une bobine.
Oui, j'aime bien.
Votre copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit...
Si tu regardes que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne.
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Salut, c'est Clémence, bienvenue dans Sale Temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Chaque semaine, on se retrouve pour vous parler de la sortie du moment. Ici, on traite les films en profondeur, donc pour ça, on est bien obligé de spoiler. Si vous n'aimez pas ça, allez d'abord voir le film et revenez nous écouter quand ce sera fait. À mes côtés cette semaine, deux dinosaures de la critique ciné. Bon, vous voulez pas.
Merci.
Plus une chroniqueuse de la nouvelle génération. J'ai le plaisir de retrouver Marie.
Salut.
Rafik.
Salut.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
C'était juste pour la blague.
Ils l'ont bien prise.
À la technique, ils manipulent les fichiers son comme d'autres manipulent les brins d'ADN. Bonjour Alain.
Salut.
Et on remercie Latex pour le montage, le mixage et l'habillage sonore.
Et lui, c'est pas un dinosaure, lui.
Ah bah bon, ah si, c'est
un dinosaure du mix.
C'est un dinosaure du mix, clairement. Je l'écoutais.
Le T-Rex du mix.
Tu sais que j'écoutais Latex sur Wii FM quand j'étais ado.
Ouais, voilà.
Voilà, donc c'est pour ceux qui se posaient la question, parce que ça revient des fois dans les commentaires. Oui, c'est bien le Latex de Wii FM.
Salut Latex.
Et puis on ne le dira jamais assez, nos émissions existent avant tout grâce à toutes les auditrices et les auditeurs qui nous écoutent et nous soutiennent. Pour qu'on reste indépendant et qu'on arrive à en vivre, on a besoin de vous. Donc n'attendez plus, pour nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com ou tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Cette semaine, des criquets géants, des Quetzalcoatlus et un Atrociraptor, retour à l'ère mésoïque, l'ère des reptiles. On vous parle de Jurassic World, le monde d'après. L'épisode précédent se terminait sur les incursions de dinosaures un peu partout dans le monde, en dehors d'Isla Nublar. 4 ans plus tard, les dinos sont partout et la cohabitation avec les humains est compliquée. Et comme si ça ne suffisait pas, une espèce de criquet géant commence à décimer l'ensemble des récoltes du globe. Aux manettes de ce nouvel épisode, Colin Trevorrow. Il avait déjà réalisé le premier volet, sorti en 2015, avant de passer la main à Juan Antonio Bayona pour Jurassic World Fallen Kingdom en 2018. Il revient donc pour boucler cette trilogie Jurassic World après un court-métrage intitulé Battle at Big Rock qui posait les bases de ce troisième film. Devant la caméra, la nouvelle garde face aux dinos, constituée de Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, mais aussi le retour au complet du casting de l'épisode originel avec Laura Dern, Sam Neill et Jeff Goldblum. Alors, je me tourne vers mon équipe composée de vieux et de jeunes chroniqueurs, de chroniqueurs et de chroniqueuses de tout âge.
Ouais, vas-y, continue.
Elle s'enfonce.
Je suis vieux, Rafik est vieux. Non mais vas-y, on a compris.
Mais non, c'est votre sagesse que je voulais mettre en avant. C'est votre grande sagesse. C'est quoi votre météo pour ce film? Est-ce qu'on est sur une pluie de météorites?
On peut carrément un météorite qui défonce tout. Ça y est, c'est réglé. Hein.
Moi, je suis sur une pluie de sauterelles. Je voulais voir le ciel, mais je peux pas parce qu'il y a des sauterelles géantes partout.
Et toi, Rafik?
Bah moi, c'est quand tu te forces à croire que la lanterne est un soleil et que tu finis par t'apercevoir que non seulement c'était pas le soleil, mais que c'est même pas une lanterne. En fait, c'est réellement une vessie. D'ailleurs, voilà, c'est un film où tu arrives en te disant bon, je vais quand même essayer de m'accrocher à la raison qui m'a fait venir jusque-là, quand même, qui est au départ les dinosaures, parce qu'on va voir des films comme ça pour les dinosaures.
Bien.
Mais on y reviendra.
On va y revenir. Ce Jurassic World, le monde d'après, est sorti en salle donc ce mercredi 8 juin, et vous allez nous expliquer tout de suite le pourquoi de votre météo. Alors Marie, je vais commencer avec ta pluie de sauterelles.
Alors, ben, pluie de sauterelles, ben, en fait, oui, déjà, c'est compliqué parce que ce film, en fait, il y a déjà un gros problème de scénar.
Non,
mais alors oui, je sais. Ouais, je sais que c'est un peu une hot take là. Je sais que je balance
argument,
comme ça.
Toi,
moi, j'envoie des trucs comme ça, tu vois. Non, mais il y a vraiment, en fait, justement, cette histoire de sauterelles, il y a deux histoires qui sont les deux pas très très intéressantes. Il y a cette histoire là de sauterelles et d'une méchante corporation qui recrée des sauterelles avec leur ADN du Crétacé ou je ne sais quoi pour manger les récoltes et se préparer peut-être, on sait pas, une famine machin. À côté de ça, t'as l'enlèvement de la gamine et du bébé de Blue et du coup chacune des deux intrigues doit donc le cast des anciens est sur l'intrigue sauterelle et le cast des nouveaux est sur l'intrigue je veux retrouver mon bébé. Les deux intrigues sont quand même pas très très intéressante et c'est un film où on a de toute la saga World et Park ensemble, je pense qu'on n'a jamais vu autant de dinos et en fait c'est qu'une toile de fond, ils ne servent à rien. Enfin, moi je me suis dit au moins il y aura du dinosaure porn et je verrai plein de dinos, mais en fait ils servent absolument à rien. Ils sont enfin, il y a une espèce de je sais pas, d'anthropomorphisme ridicule poussé. Enfin, moi, j'en peux plus de voir Chris Pratt lever la main comme ça. Je suis en train de le mimer, c'est très très radiophonique, mais j'en peux plus de voir Chris Pratt là lever la main vers des raptors.
En faisant
enfin...
L avec le pouce.
Non, mais c'est. Enfin, je sais pas, c'est ridicule. Les dinos sont jamais en fait sont jamais un danger. En fait, tu parlais tout à l'heure du prologue et du court-métrage qui était sorti, je sais pas, peut-être un an avant la sortie du film, où on voyait un peu justement ces dinos, c'était un peu la planète des dinos, quoi, la planète des singes version dinosaure, avec les dinosaures qui faisaient irruption dans le quotidien. On voyait dans le petit court-métrage, je crois que c'était un dinosaure qui attaquait un trailer park, dans un truc où les gens vivent dans des mobil-hommes, et il attaquait ça. Et dans le prologue, il y avait toute une partie sur les dinosaures à leur ère et les dinosaures aujourd'hui, et dont un T-Rex qui attaquait un drive-in, je crois. Et il y avait... En fait, je trouve qu'il y avait plus d'intérêt dans ces deux petits cours qui duraient peut-être 8 minutes et 5 minutes que dans le film entier qui dure 2h26, parce que aussi, c'est très très long. Et en fait, ça, on le voit jamais, c'est pas du tout traité. Et c'était Trevorrow ne parlait que de ça pendant la promo, en disant « Oui, on va voir ce que ça va être d'avoir des dinosaures dans le monde qui débarquent dans le quotidien et tout. » Et en fait...
Ce qui quand même semble être le sujet du premier film. Hein,
déjà, oui, déjà, ça n'avait rien de novateur. Ouais. Alors, donc déjà, il annonçait ça comme si c'était un peu comme moi quand je dis qu'il y a un problème
quoi
de scénar dans le film. Quoi.
Il y a des dinosaures
c'est
dans ce film.
Et en plus, c'est en plus jamais traité. Quoi. C'est la promesse du truc et elle est jamais là. Tu vois des dinos dès la... Au bout de à peu près 10 secondes de film, t'as la première apparition. Et bon, alors il y a aussi un problème de réal. Je balance un deuxième pavé dans la mare parce que je suis comme ça. Au bout de 10 secondes, c'est l'opposé du premier Jurassic Park. Et moi, je ne peux que juger ces films-là par rapport au premier Jurassic Park qui est mon film de chevet d'enfance, mon film parfait et tout. Et en fait, un peu comme Les Dents de la Mer, Spielberg a amené les dinos au bout de, je sais pas, 40 minutes de film ou je sais pas combien. Et là, en fait, c'est l'opposé. T'as toute la note d'intention, en fait, elle est dans cette première scène où t'as, au bout de 10 secondes, un dinosaure qui est filmé avec les pieds, une espèce de, je sais même plus comment il s'appelle, là, l'énorme truc marin qui vient attaquer un chalutier, un bateau là, qui pêche et qui l'entraîne dans l'eau. C'est filmé n'importe comment, t'as aucune tension. Et en fait, dans tout le film, c'est ça. Les dinosaures sont. Il y a des gros problèmes de rapport d'échelle. T'as jamais. Les dinosaures, qui sont des trucs énormes, sont jamais filmés par rapport aux gens et aux personnes qui sont plutôt petites à côté, en tout cas quand on parle de grands dinos. C'est illisible. Enfin, je sais pas comment on peut rater sur tous les plans un truc comme ça. Non, mais vraiment, enfin, moi j'attendais que ça, de voir un film avec des dinos et revoir les trois membres du cast original. Tu vois, c'est le. Enfin, moi j'adore ces trois personnages-là, j'ai grandi avec, c'était des personnages que j'adorais. Et là, c'est pareil, en fait, ils reviennent. Et c'est des personnages qui t'as l'impression qu'il y a eu un arrêt dans le temps il y a 30 ans. Ils sont habillés pareil. Ils ont leur ressorti. Non, mais tu sais, c'est à croire. Tu sais, comme.
Moi, j'étais assis à côté de Marie et elle a quand même pouffé quand. Pesté, pardon, tu vois.
Oh, j'ai pouffé aussi.
Il a fallu remettre la chemise parce que c'est un grand gag.
Ouais, non, mais.
Un grand mème, en fait, sur Internet que Jeff Goldblum a la chemise ouverte dans comment dire.
Dans le premier Jurassic Park. Ils le font se reboutonner la chemise.
Voilà, ils le font se reboutonner la chemise. Pour un espèce de gag méta, quoi, en fait, si tu veux. Et du coup.
Et en fait, le film n'est que ça, des références, le film, pendant tout le film, ça te donne des petits coups de coude, genre, t'as vu, dès que t'as un des trois membres du cast original, t'as la musique de Jurassic Park soulignée au cas où tu les aies pas reconnus, parce qu'en plus, on les a habillés pareil, mais on va aussi te mettre la musique au cas où. Et en fait, c'est que des trucs qui jouent sur ta nostalgie, mais en fait, je pense que tout fan de Jurassic Park, ça t'énerve de voir ça. T'as toute une première partie qui part un peu dans une espèce de. un mix de, d'un mauvais James Bond, d'un mauvais Mission Impossible, d'un mauvais Jason Bourne, qui est, pour après finir en huis clos sur une île et reprendre un peu la situation de Jurassic Park. Et à partir de là, il ne rejoue que des scènes de Jurassic Park. Et en plus, bon, quand t'es Colin Trevorrow, t'es clairement pas Spielberg. Et c'est quand même très compliqué de dire, tiens, je vais refaire les mêmes scènes que dans le film, sauf que je sais pas les filmer, quoi. Donc en fait, c'est que des clins d'œil. Bah, ce que tu disais sur le fait que Jeff Goldblum, là, se referme sa chemise. À un moment, tu le vois avec ses... avec une torche qui reprend la scène du quand il essaie d'éloigner le T-Rex dans le premier. T'as les deux personnages féminins, donc le personnage d'Ellie et de Claire, qui refont la scène d'Ellie du premier pour aller remettre le courant, machin. C'est que des redites en beaucoup moins bien parce que il s'est pas filmé, quoi. Il y a aucune intention dans la mise en scène et il y a aucune mise en scène de toute façon. Et en fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'en fait, si tu veux revoir ces trois personnages là faire des trucs qu'ils faisaient dans Jurassic Park, bah tu revois Jurassic Park, quoi.
Mais je pense qu'on va même pas parler de mise en scène dans cet épisode parce que ça nous mènerait.
Je m'en parle un petit peu parce que
ne serait-ce que d'attaquer le film sur des fondamentaux, je dirais grand public, enfin ce que n'importe quel spectateur à la base est censé venir chercher dans un film, simplement qu'on lui raconte une histoire à peu près cohérente. Là, c'est un film qui sacrifie absolument tout sur l'autel de l'évocation au mépris de toute logique narrative, quelle qu'elle soit. Là, tu parles de tous ces coups de coude. T'as oublié l'apparition d'Ellie au début, au cas où effectivement tu l'aurais pas reconnue parce qu'elle a quand même pris 30 ans dans la gueule. De lui faire refaire exactement le même geste avec ses lunettes quand elle découvre le champ de blé, en oubliant que à l'origine, elle était censée être subjuguée par une vision absolument impossible qui était celle d'un diplodocus devant elle, quoi. Et là, elle est juste devant un champ de blé qui a été bouffé par les sauterelles. Donc, t'es là en train de dire, mais qu'est-ce que tu essaies de me raconter? J'ai bien compris que tu me fais référence au geste.
En fait, c'est comme nos attentes sont baissées, quoi, ouais. Tu vois.
Mais tu cherches à me raconter quoi à travers ça? Moi, c'est vraiment ce qui m'a complètement effaré, parce que on sait que les Américains et le public américain notamment sont très chieurs sur le détail. Quand tu vas sur le net et que tu lis les critiques de films, évidemment ça parle très rarement de mise en scène, de photos, de ce genre de choses esthétiques. Ça s'accroche toujours aux incohérences du récit, etc. Et là tu fais enfin ça déborde de tous les côtés. On a le couple Pratt Bruce Dallas Howard et donc avec la fille, la Maisie Lockwood, qui sont isolés en pleine cambrousse dans la nature. Bon, je vais passer sur le fait que la gamine, perdue au fin fond de la campagne américaine, elle a eu le temps de s'exercer à avoir un accent londonien absolument impeccable. Mais il y a rien qui t'est donné sur la raison déjà qui leur a fait choisir ce lieu-là. En quoi ça conditionne leur vie et leur rapport de couple, de parents adoptifs vis-à-vis de cette gamine. Et le film est quand même construit autour d'elle, puisque c'est quand même elle qui va être kidnappée et qui va être le comment on appelle ça le MacGuffin, on va dire, de l'intrigue. Mais tout ce qui nous est donné au départ comme une vague motivation, le fait qu'elle se sente enfermée dans cette villa, qu'elle cherche, elle a pas le droit de traverser un pont par exemple,
personne ne doit savoir qu'elle existe encore et où elle se trouve. Mais voilà. Moi, n'ayant pas vu l'épisode précédent, alors là, j'ai mis un moment avant de raccrocher les wagons.
Oui. Moi, ayant vu l'épisode précédent, j'ai mis un moment avant de raccrocher les wagons parce que j'avais tout oublié.
Parce que c'est un clone humain, en fait, c'est ça.
Et j'avais complètement oublié tout cet arc.
C'est un clone de sa mère.
Reconstitué avec l'ADN.
Le mec l'avait créé parce qu'il n'avait pas supporté la disparition de sa fille et tout ça, voilà. Et on l'apprenait en fin d'épisode, c'est-à-dire au moment où on avait tous décroché déjà sur le film précédent. Mais je viens, on te présente quand même cette gamine, on te présente la gamine en train de traverser un pont. Donc t'es là, en tant que spectateur, tu dis ok, bon, tout ça, ça a du sens, c'est important. Et sa mère lui demande, mais t'as pas traversé le pont? Ah non, j'ai pas traversé le pont. Alors, okay,
où est-ce qu'il emmène? Qu'est-ce qu'il y a au bout du pont, quoi?
Et c'est qui ces ouvriers avec qui qu'elle est allée voir? Elle est allée leur donner un conseil parce que justement, ils étaient en train d'essayer de se débarrasser d'un brontosaure ou je sais pas quoi. Elle leur a chuchoté un truc comme si elle comprenait intuitivement, instinctivement ces animaux. Donc, tu t'accroches à ces éléments-là en tant que spectateur qui ne servent strictement à rien du tout, parce que le reste de l'intrigue, elle va être trimballée d'un endroit à l'autre, elle ne fera absolument, elle aura aucune action, quelle qu'elle soit, sur le récit. Et ça, c'est c'est non-stop. Donc ça,
elle va apprendre quelle est son histoire à elle. Tu apprends que. Sa mère,
sa mère l'a bien enfantée, etc., qu'elle n'est pas juste un clone, là, bon. Ok, sur un plan, je dirais, de structure narrative, il n'y en a pas. C'est-à-dire, on te jette des bouts de viande, mais c'est juste des bouts de viande qui tombent au sol.
À plus forte raison que, en fait, justement, on te fait joindre ces deux histoires au bout d'un moment à la marabout bout de ficelle, quoi. Et en gros, si tu veux, tu te retrouves avec deux personnages, le moment d'échec là-dedans. C'est le moment en fait où t'as le personnage de Grant et le personnage, je me rappelle plus comment il s'appelle, Chris Pratt dans le film.
Owen,
qui se retrouvent face à face et qui disent la même chose et qui sont censés être le même personnage en fait, si tu veux, à 30
ans d'écart.
Je t'ai
entendu pouffer à ce moment-là.
Et t'as envie de dire, mais pas du tout en fait, vous avez complètement raté ce truc, donc essayez pas de le rafistoler à la Frankenstein, tu vois, genre mettre un bout de.
Et après, au-delà de ce qui sert à rien parce qu'il n'y a pas du tout de structure, il y a la question même des incohérences. Et moi, je tombais des nues. Enfin, quand on arrive à Malte, qui débarque dans cette espèce de marché secret. De souk des dinosaures. Bon, outre le fait que l'idée était là, le réalisateur en parlait comme de Hive of Villainy. Donc, tu sais que le mec, il est clairement en train de faire référence à Star Wars quand il fait cette scène-là. Déjà, tu dis, mais c'est quoi le projet, quoi, de mélanger dinosaures et Star Wars? Dans Star Wars, c'est des aliens. Donc, il y a un côté effectivement festif dans le n'importe Nawak. Mais c'est un contrat que tu signes avec le spectateur, ce côté Nawak. Les dinosaurs de Jurassic Park, et Dieu sait si à l'époque de la sortie du premier film ils ont insisté là-dessus au niveau de la promo, ils ont été vraiment travaillés comme des animaux. C'est-à-dire qu'il y a eu un énorme travail de structuration réaliste de leur comportement. S'ils existaient aujourd'hui face à des humains, comment se comporteraient-ils? Effectivement, ça a été balayé à partir du troisième film, déjà, dès l'instant où les Vélociraptors se sont mis à chatter ensemble, je sais pas, aller sur internet, sur des forums et autres. Et puis Jurassic World, on était parti.
C'est pas dans le film, faut le dire que c'est pas dans le film. Mais c'est qu'ils parlent entre eux, effectivement.
Mais là, déjà, ce marché, c'est
comme dans le fils de Godzilla.
C'est l'aveu de. Ben, non, en fait, ça a toujours été des gloumoutes. Tu vois, ça a toujours été des petites créatures rigolotes. Tu vois,
ça m'a fait penser à Indiana Jones, un peu dans l'esprit aussi.
Oui, Indiana Jones, il évoquait déjà au niveau de la photo à fond, mais j'y reviendrai quand on parlera de. Comment s'appelle le personnage Flagada Jones, là. Wanda Wise. Ouais. Voilà.
L'aviatrice.
J'ai pensé à Flagada Jones.
Non, mais on est d'accord, c'est la bande à Picsou,
cette nana.
Kayla Watts, le personnage.
Oui, c'est ça, Kayla Watts, merci.
Donc j'ai demandé, pareil, le prénom trois fois à Marie en sortant du film. Je me suis dit, mais elle s'appelle comment déjà? Et Marie s'en rappelait, parce qu'elle a suivi le film.
Non, parce qu'en fait, pendant le film, je me suis dit, comment elle s'appelle, elle? Et quand ils l'ont dit, j'ai fait, il faut que je m'en souvienne, parce que je l'oublierai.
Sinon, je vais être paumé.
Ouais.
Et donc, oui, et durant cette séquence-là, je ne sais plus exactement pourquoi, il y a deux énormes carnivores, donc des Actarus, Goldoracus, je ne sais plus comment ils s'appellent, qui déboule et qui bouffe un mec, et ça enclenche une séquence d'action qui est censée être délirante, dans laquelle Chris Pratt et son ennemi du moment, donc une espèce de chasseur de primes, n'ont rien d'autre à foutre que de se faire un duel au couteau. C'est-à-dire qu'ils ont littéralement deux énormes carnassiers dans le dos, en train de bouffer des gens, et eux sont « Non, mais il faut d'abord qu'on règle notre truc entre toi et moi. » Et toi, t'es là « Mais... » What the fuck, quoi? Omar Sy et sa bande veulent capturer une nana, donc la braque avec les flingues. La meuf leur balance d'autres carnivores à la tronche.
Des raptors télécommandés par un laser. C'est encore mieux.
C'est comme les chats. Tu les excites et tout avec le truc, quoi.
Ils sont figés sur place et ils se mettent à courir. Et là, tu fais, mais vous aviez pas des flingue dans la main à l'instant. Et t'es là, tu dis, mais il y a eu absolument. Je refuse de croire qu'il n'y a eu aucune écriture. Qu'on en soit arrivé à un point où les scénaristes ou le team de scénaristes ne se reportent même pas à la page précédente.
Tu crois pas que, en fait, la problématique, c'est que justement, à partir du moment où eux, ils établissent le fait que t'es dans un monde qui cohabite. Ce qui est déjà, on a tous dit que c'était pas traité, donc on le sait que c'est pas traité hein, dans le film. Mais à partir du moment où ils ont établi qu'on est dans un monde où les dinosaures cohabitent avec les humains, par nécessité, on va dire, même si ça semble complètement
Oui.
Inconcevable, en fait, si tu veux.
Les balles ne les tuent pas.
Non, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, du coup, en fait, le fait d'avoir deux personnages qui se foutent sur la gueule, dans leur esprit, dans l'esprit des scénaristes, je me mets à leur place. Hein. Je suis pas du tout.
Je pense pas qu'ils sont allés jusque-là.
En fait, les mecs se disent, bon, bah, de toute façon, ils peuvent le faire, puisque en fait, tout le problème de cette nouvelle saga, en fait, de cette nouvelle trilogie de Jurassic World, c'est que c'est ce qu'on pointe du doigt. Qu'est-ce qui était la qualité, en fait, je veux dire, initiale de comment dire, la thématique initiale du premier? C'était de mettre l'homme face à la nature. Mmh. Et de lui dire, voilà, en fait, avant toi, il y a eu eux. Et s'ils reviennent, qu'est-ce qui se passe, en fait? Et qu'est-ce que ça dit sur toi, si tu veux, donc, toi, l'humain, tu vois? Et donc, en gros, tout était mis en place à travers cette thématique-là. Dans le premier Jurassic World, on te présente un personnage qui est le personnage de Chris Pratt, qui contrôle, de toute façon, les dinosaures. Donc, il contrôle, quelque part, tout ce qui était énoncé par, comment il s'appelle le personnage de Malcolm, tu vois, oui. Dans le précédent, qui était la théorie du chaos. Mm. Tu vois, il contrôle ça. On contrôle le chaos, on s'en fout. C'est nous les mâles alpha. Tu vois, c'est nous le mm. On est le top of the food chain. On est au-dessus des dinosaures. Et là, t'as envie de dire, ok, d'accord. Il y a déjà un problème, en fait, si tu veux. Et donc, à partir de ce moment, t'en arrives au troisième de cette saga. Excuse-moi, Clément, je termine juste mon truc. Mm. Pour dire que voilà, en fait, si tu veux arriver à ce stade-là, moi, ça m'étonne même plus, en fait. Tout ce que tu pointes du doigt, je suis, ah oui, c'est vrai. Tu vois, mais en fait, ça m'étonnait même plus parce que globalement, en fait, je pense que tous les manquements, en fait, ils sont expliqués par la toile de fond. Pour eux, c'est, en fait, on est dans cette toile de fond où, de toute façon, il y a cohabitation. Donc, maintenant qu'on vous l'a dit, démerdez-vous avec ça, quoi.
Ouais, mais en fait, cette cohabitation, on l'a jamais vue, tu vois. Ah, en fait, il manque un film entre les deux, quoi.
Le chaînon manquant.
Mais
moi, je comprends pas ce que vous évoquez par cohabitation, parce qu'encore une fois, lorsqu'ils font leur duel au couteau, il y a des mecs en train de se faire bouffer juste derrière eux à 1m50. Ouais. Donc, le fait est que, moi, ce que j'ai perçu, c'est que, comment dire, Il y a des péripéties, mais ces péripéties ne sont absolument pas liées l'une à l'autre. C'est comme si elles se passaient dans des dimensions parallèles. C'est-à-dire, il s'est passé quelque chose une minute avant, c'est oublié. Toi, spectateur, tu l'as oublié parce qu'on est en train de te montrer une autre péripétie qui commence. Et c'est là où je dis que la structure, elle explose complètement. C'est que on demande au spectateur une amnésie perpétuelle, en fait. Et moi, qui, comme un con, fonctionne à l'ancienne, où j'essaie de me souvenir des trucs, de me dire, ah, le pont, il était important au début, tu vois, au bout de 2 heures.
Le pont, mais quel pont?
Mais de quoi tu nous parles? De quel pont, tu vois?
Puis on t'annonce des choses aussi, en termes d'amnésie, c'est quelque chose dont je me suis souvenu à la fin du film, mais où j'étais, waouh. Ils le disent quand même au début qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, ok, il y a cette cohabitation, mais il y a toute une partie des dinosaures, ceux qui ont été rapatriés sur l'île, ils sont tous contrôlés parce qu'ils ont une puce dans le cerveau.
Ah oui.
Et alors là, tu te dis, du coup, à quoi sert tout ce qui se passe sur l'île si ces dinos sont contrôlés de toute façon avec.
Mais de toute façon, enfin, cette notion, justement, en fait, que moi je trouve. Enfin, pour moi, c'est hallucinant, en fait, de se dire que tu fais un film sur ce sujet-là et que globalement, en fait, en gros, tu pour pas t'emmerder au scénario, justement, en fait, si tu veux. Alors déjà, j'imagine que c'est la première explication, si tu veux, c'est que tu crées des espèces de stratagèmes scénaristiques, en fait, pour avoir ce genre de situation. C'est-à-dire, l'autre, il est copain avec un dinosaure, tu vois, je veux dire, il n'y a pas de dangerosité, tout va bien, etc., etc., c'est tout le temps le cas. Blue, en fait, c'est son pote, tu vois, je veux dire, c'est comme moi avec mon chat, quoi, tout va bien, tu vois, je veux dire, tant que je le nourris, tu vois.
Est-ce que tu fais ça à ton chat?
Mais voilà, mais ça marche pas.
Bah, c'est
mais
pareil, tu vois, juste, elle lui griffe la main comme Blue griffe la main de Owen.
Et c'est surtout ne pas comprendre du tout, si tu veux, quel est à la base le sujet. Parce que, moi, le problème, en fait, pour revenir un tout petit peu sur le truc, c'est que, moi, je suis pas forcément un énorme fan de Jurassic Park, mais je pense que si tu réfléchis globalement aujourd'hui, les gens qui ont une cinéphilie, qui sont spectateurs, etc., etc., et qui ont, si tu leur demandes c'est quoi le cinéma, Star Wars ou Jurassic Park, c'est des films qui vont ressortir assez régulièrement, donc ils ont quand même une importance dans l'histoire du cinéma, si tu veux, pas seulement parce que les gens l'ont vu en fait et que ça a été des cartons, mais parce qu'ils ont une importance et que les gens, même de manière larvée, en ont conscience, en fait, ils savent que c'est une date dans l'histoire du cinéma. Donc partir de cette date et arriver à faire ça, enfin c'est juste pour écrémer le truc, quoi. C'est déjà enfin, moi j'avais déjà ce problème-là avec le précédent, enfin avec Jurassic World, le premier Jurassic World. Je dois avouer que Colin Trevorrow, mais j'ai pas vu son film intermédiaire là, qui était The Book of Henry, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, quoi. Donc il m'a absolument pas manqué, voilà. Mais c'est vrai que il faut rappeler. Parce que le vrai problème fondamentalement du film, c'est qu'au-delà des incohérences, au-delà de tous ces trucs-là, etc., etc., c'est qu'il y a une espèce de volonté, parce que c'est pour ça que j'ai envie un peu de parler de mise en scène, c'est qu'il y a une espèce de volonté, en fait, d'essayer ce qui a, j'ai l'impression, blousé pas mal de monde, en fait, sur le premier Jurassic World, c'est cette espèce de volonté de faire un beau film bien fait. C'est-à-dire, quand je dis bien fait, c'est pas bien raconté ou bien réalisé, c'est bien fait. C'est-à-dire, genre, les dinosaures, ils sont super bien faits, il y a du dinoporn, il y a tous ces trucs-là, donc en fait, t'en as pour ton argent. Et le truc, c'est que moi, quand je regardais ce film-là, je me disais, mais et là, c'est on arrive au stade terminal de cette problématique, hein, pour moi, avec le troisième, quoi. Enfin, je dis le troisième, le sixième, je sais pas, le combien, quoi. C'est que, en gros, il y a l'illusion que c'est bien fait, mais c'est pas bien fait. C'est pas que c'est même pas bien raconté, encore une fois, ou je sais pas quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir suffisamment de plans dans la bande-annonce pour dire, ah bah tiens, là, comment dire, il y a une belle poursuite dans les rues de Malte, en moto, machin, avec la caméra au ras du sol, et tout ça, etc., etc. Mais en fait, si tu veux, ça, fondamentalement, aujourd'hui, n'importe quel blockbuster où les mecs passent un peu de temps et un peu de mettre un peu de trucs pour avoir des images en fait qui en tapent un peu, quoi, t'en as plein, tu vois. Je veux dire, des plans comme ça, tu peux avoir dans les Marvel. La question, c'est est-ce que t'es dans cette scène ou pas. Moi, la scène de l'hélico, ce qui me fait halluciner, c'est que en fait, ils sont sous une tempête de neige, sous un machin, et il n'y a pas une seconde où t'as l'impression, si tu veux, qu'ils reçoivent de la neige sur la gueule, que t'as l'impression d'être là, qu'il se passe quelque chose, que... et du coup, en fait, ça, il en va de tous les éléments, en fait, tous les éléments qui composent le film, c'est-à-dire les dinosaures, ils sont super bien faits, mais j'ai jamais l'impression qu'ils sont là, effectivement, jamais. C'est-à-dire, en fait, c'est un décorum, quoi.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Donc c'est super, comment dire, c'est étonnant en fait d'aujourd'hui d'arriver à un niveau de technicité qui fait qu'on peut avoir ces images-là qui sont finalement au service d'un film d'incompétent total. C'est dingue, hein, parce qu'il y a 15 ans, 20 ans, on se posait pas ces questions-là. Les gens qui faisaient ces images-là, c'était des gens qui avaient un contrôle sur leur film et qui se partaient dans une direction. Peut-être qu'ils se gouraient sur plein de trucs, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à raconter un film ou bien, etc. Mais ils avaient au moins un contrôle sur ça.
On revient toujours à la même question de tout sacrifier à l'évocation. C'est-à-dire que quand tu parles de cette poursuite à Malte, effectivement, c'était clairement un projet affirmé par le réalisateur des 2018, je crois, hein, qui était de faire des références à Jason Bourne. T'as juste envie de lui poser la question, pourquoi
qu'est-ce que faire un Jason Bourne, en fait.
C'est quoi le rapport entre Jurassic Park et James Bourne,
enfin, c'est toute la donnée mythologique, en fait, de ces créatures-là. Qu'est-ce qu'elles valent? C'est-à-dire, on en parlait l'année dernière avec King Kong contre Godzilla, où le mec, en fait, il te fait passer King Kong pour McClane ou Martin Riggs dans L'Arme Fatale, et tu fais, mais pourquoi? Enfin, je veux dire, moi j'aime bien ces films-là aussi, mais pourquoi? Je veux dire, King Kong, c'est une créature mythologique, les dinosaures. Je veux dire, en fait, certes, le film de Spielberg est super bien fait, donc il va te dire, ouais, ça y est, on pourrait savoir à peu près à quoi ressemblera un dinosaure si on avait en face de nous. Tu vois, c'est l'évocation cinématographique, ça fonctionne. Mais en fait, on n'y est toujours pas. Dans le monde de tous les jours, on n'y est toujours pas. Donc pourquoi est-ce que tu fais pas un film sur justement le fait qu'on ne soit pas dans le monde de tous les jours, qu'on ait ces dinosaures-là? Et là, non, effectivement, ils te les traitent. Moi, le meilleur moment, c'est le T-Rex qui fait semblant d'être mort à la fin, comme dans Rambo 2, quoi. C'est-à-dire, t'as Stallone à la fin de Rambo 2 qui fait semblant d'être mort et qui se relève pour les tuer. Et là, c'est la même chose. Je me suis dit, mais c'est Rambo 2.
On rappelle pour ceux qui ont vu le film et qui ont déjà oublié, hein, mais donc il y a le T-Rex qui se bat contre l'Allosaure, qui effectivement fait semblant d'être mort. Entre temps, il y en a un autre, j'ai retenu son nom, un archéoptérix vaguement géant qui déboule avec ses grandes griffes.
Ah oui, voilà. Edouard de Main d'Argent.
Et donc, Edouard de Main d'Argent, exactement, Edouard Scissorhands russe. Et donc, le T-Rex et Edouard Scissorhands russe se mettent ensemble pour buter l'Allosaure. Arrivé à ce point-là, j'en avais tellement plus rien à secouer que je m'attendais à ce qu'il fasse un high-five, en fait, après l'avoir buté. Non, mais vraiment, parce qu'ils sont là tous les deux face à face, ils se regardent. Ils font...
Mais c'est tellement ridicule. T'as celui avec ses très grandes mains et l'autre avec ses tout petits bras et ils sont tous les deux en train de grogner.
D'avoir buté leur ennemi commun. Mais ils n'ont plus aucune fonction dans la scène de poursuite en moto à la Jason Bourne, qui au demeurant est...
Ou Mission Impossible.
Et entre guillemets bien faite, c'est-à-dire elle est bien photographiée,
c'est ce que je dis.
Elle est bien...
C'est ce que je dis.
En fait, les raptors dans cette séquence-là, c'est des mobilettes. Enfin, c'est littéralement...
C'est clair.
Non, mais c'est ça, puisqu'en fait, il essaie de les semer et du coup, elle se casse la gueule dans les escaliers, etc. Comme des motos dans un James Bond.
Dans
Mission Impossible. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des plans, excuse-moi Marie, t'as des plans à la Mission Impossible, si tu veux, t'as carrément un raptor qui saute. En fait, j'ai cru qu'il allait se péter le genou comme Tom Cruise dans Mission Impossible Fallout, tu vois. T'as effectivement le même plan à la Jason Bourne avec le raptor
qui saute d'un étage à l'autre, d'un immeuble à l'autre.
Voilà. Ouais. Enfin, c'est référencé, tu vois. Tu te dis, c'est automatiquement ça. si tu veux. Et là, la deuxième, une fois que tu t'es dit ça, tu dis pourquoi, effectivement,
c'est
pourquoi.
Ça. Et, et surtout, est-ce que tu réalises que c'était un dinosaure que tu étais en train de faire, enfin, que c'est un animal précis qui a une fonction précise et que tu l'as complètement explosé.
En fait, dans tout le film, tu pourrais enlever les dinosaures et les remplacer par n'importe quoi,
oui, c'est
par
ça.
N'importe quel antagoniste. Non mais oui. En fait, non mais ça pourrait être une personne, ça pourrait être une organisation de méchants, ça pourrait être quand ils sont dans la jungle, ça pourrait être n'importe quel prédateur, n'importe quel fauve ou un alligator, un machin. Tu peux le remplacer à chaque fois par plein de trucs et t'as aucune tension liée aux dinosaures. Et puis en plus, t'as quand même ce truc là où ils sont jamais, en fait, ils sont jamais une menace, quoi. Dans toute la scène, l'espèce de climax qui en est pas un du tout, où en fait le dinosaure les course, ils courent tous plus vite. Ils ont quand même une enfant, et c'est quand même des gens. Le cast originel, il est plus tout jeune. Ils courent tous plus vite que le, je sais même plus comment il s'appelle, le gigant machin là. Le gigantosaure là. Bref, non, mais ils courent tous plus vite que le. On leur dit c'est le plus grand prédateur qui est sur Terre, et ben quand même il est sacrément nul, le plus grand carnivore prédateur. Enfin. Le truc n'attaque que quand ils sont quand il y a une espèce d'armature en fer qui fait qu'il pourra jamais les manger. Enfin, ils se cognent à des trucs. Enfin, c'est quand même fou que vraiment il y a ces deux trucs qui, pour moi, étaient les deux trucs qui étaient dans le tout premier Jurassic Park. C'est le côté émerveillement de voir des dinosaures. Ça, bon, on a bien compris que dans tout le Jurassic World, c'était fini. Et tout le côté tension. Moi, j'ai beau revoir Jurassic Park, je l'ai vu des centaines de fois, je le revois aujourd'hui. La première apparition du T-Rex avec la voiture et tout, je trouve qu'elle marche toujours, elle est hyper bien mise en scène, elle marche toujours aussi bien. Là, t'as jamais une scène, même dans Le Monde Perdu, Jurassic Park 2, qui est pas fou. Il y a deux, trois scènes, celle de la caravane, là, des wagons qui tombent et tout. Il y a deux, trois scènes qui sont bien mises en scène et dont tu te souviens. Là, il n'y a rien. Moi, je me souviens de rien du film.
C'est parce qu'il baisse les bras sur ces trucs-là. C'est ce que je voulais dire aussi. C'est-à-dire, pourquoi on parle de mise en scène ? C'est-à-dire que Jurassic Park, globalement, en fait, le dinosaure, il est là avant d'être là. C'est-à-dire qu'en gros, si tu veux, dans la scène de l'apparition de T-Rex, je sens même parler de la scène en fait du verre d'eau, quoi, si tu veux, en fait, c'est que en fait, t'as la masse du personnage qui est là, t'as la dangerosité parce qu'il a explosé les barrières électriques, si tu veux, t'as le renvoi de la chèvre, t'as tout un truc, etc., etc., qui joue avec en plus ce que le gosse il est censé voir ou pas voir à travers ses lunettes, tu vois.
Ça donc, monte petit à petit.
T'as tout un build-up autour de ça, si tu veux, mais bon, c'est Spielberg, quoi, voilà, c'est léger, c'est normal, quoi. Mais là, effectivement, le build-up, c'est pas ce que c'est, en fait. Il se pose même pas la question, il peut le faire.
Et David Cubb, il y a une structure scénaristique dans le premier film, mais moi, ce qui ne cesse de me fasciner, c'est que sur les 20-25 dernières années, on n'a pas arrêté de survendre les cours de scénario, tous les gourous qui sont passés les uns après les autres, et qu'on fait parler d'eux, les Robert McKee et compagnie, voilà, où on savait que les scénaristes hollywoodiens passaient leur journée à étudier la structure, et t'es là devant ça, où tu te dis, merde, tout a pété dans tous les coins, enfin, il n'y a plus de fondation, il n'y a plus de poutre. Je vais commencer quand même à construire ma maison, je vais mettre des tuiles en bas, et voir si je peux faire tenir un pilier là-haut, tu vois. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une problématique déficit d'attention, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, alors, ouais, je ne vais pas faire mon vieux schnock là, mais le truc, tu veux, c'est qu'il y a la notion aujourd'hui avec les réseaux sociaux, les trucs comme ça. On en parlait en antenne, si tu veux, sur des trucs comme ça entre nous, là. Mais aujourd'hui, t'as une attente autour des films, en fait, qui est que qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce film, qu'est-ce qu'on vous cache, qu'est-ce qu'on vous cache pas. Et finalement, en fait, toutes les scènes, elles apparaissent 5 minutes après que le film soit sorti, si tu veux, par des gens qui les filment et qui les mettent, que ce soit, enfin, où tu veux sur les réseaux sociaux, c'est même pas YouTube, en fait, où tu peux striker, faire tomber le truc. C'est littéralement partout. C'est-à-dire, tu peux plus. Les studios, ils le savent, en fait, qu'une fois que le film est sorti, il ne leur appartient littéralement plus. Donc en fait, le seul truc maintenant, c'est de sortir les films, alors avec le Covid, ça s'est accéléré, en 45 jours sur Internet et tout ça, etc., etc., pour aller vite. Mais le problème, c'est que dans le truc de consommation, fondamentalement, enfin moi en tout cas, c'est mon avis, je vais prendre cet exemple dont je parlais en antenne, c'est que un Spider-Man No Way Home, une fois que t'as vu les 10 scènes, en fait, si tu veux, qui sont importantes, qui sont clés, dont tout le monde va te parler, sur les réseaux sociaux, bah c'est fini, t'as plus besoin de voir le reste du film, parce que globalement, si tu le regardes, tu te dis, mais ça m'a rien raconté de particulièrement.
Oui, c'est du remplissage.
Voilà, le reste, c'est du remplissage. Et le problème, c'est qu'en fait, on se retrouve avec ces trucs-là, où il n'y a plus le besoin. En fait, j'imagine que tu l'as sur certains films, évidemment, puisque t'as des gens qui essayent de le faire, mais en fait, t'as plus ce besoin, en fait, à un moment donné, tout simplement, de contenter les gens, mais arriver à un stade, voilà, enfin, tu vois, TikTok, tous ces trucs-là, ça dure 10 secondes.
La réflexion après avoir vu le film, en essayant de réfléchir à justement pourquoi on faisait des films comme ça. Parce que je refuse de croire que qu'il s'agisse de la, de, d'un problème d'incompétence. Alors bon, je sais bien qu'il y a deux des scénaristes principaux qui ont bossé sur le second Pacific Rim et que ça devrait déjà mettre toutes les lumières au rouge, mais il y a une limite à l'incompétence, en fait. Là elle est franchie au niveau du mur du son à un point tel que je ne peux pas penser autrement que et désolé pour le côté conspirationniste, que c'est voulu. C'est-à-dire que quand on en arrive à déstructurer à ce point-là, on sait qu'on est en train de déstructurer.
Je ne sais pas si c'est voulu, est-ce que c'est pas mis face aussi à la problématique du planning, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, on a besoin des 5 grosses scènes.
Je veux bien qu'il y ait des urgences, qu'on leur mette la pression, qu'on leur demande de réécrire sans arrêt les scènes, etc. Mais quand tu passes 3, 4, 5 mois sur un script, tu vois bien, parce que c'est sur la même page, que les mecs sont en train de se battre au couteau, alors qu'il y a des putains de dinosaures autour d'eux. Donc tu vois bien qu'il y a un problème, un souci, et qui pourrait être facilement résolu. Moi, je pense que vraiment il y a une volonté de créer une intrigue décousue où chaque événement annule et remplace le précédent au mépris de toute logique narrative, parce que ça correspond effectivement, comme le dit Stéphane, à quelque chose qui est attendu de la part du spectateur à ce moment-là, qui est cette amnésie, d'entretenir son amnésie pendant toute la durée.
Je ne sais pas si c'est attendu par le spectateur. Hein.
Alors, je ne sais pas s'il y a une vraie volonté de ça, mais en tout cas, à mon avis, c'est très lié aussi au fait que les personnages n'existent pas. Les personnages ne sont personne.
Ils ne peuvent pas exister dans une structure.
Non, mais les personnages qu'on te fait revenir des années après, les personnages originels,
ne sont pas des personnages
originels. Ils ne racontent rien.
C'est des caricatures.
On ne sait pas ce qui s'est passé à part que
les gros. Ce n'est pas compliqué. Le docteur Grant et Ellie, c'est littéralement Bernard et Bianca dans celui-là. Donc, mais vraiment.
Il y aurait un temps un peu.
Ils reprennent exactement la structure de Bernard et Bianca, le pays des kangourous, où il attend tout le film pour lui déclarer son amour et lui offrir une bague. Et elle est complètement obsédée par sa mission. Et elle fonce et lui il est derrière à la suivre. Attendez-moi, Miss Bianca. Tu vois.
Non, mais
j'ai pas raison, c'est pas ça.
Beaucoup de références à Disney. Non, c'est vrai.
Ceci étant dit, pour être beaucoup même plus basique, si tu veux, en fait, la raison pour laquelle il la suit, globalement, si on suit les choses, c'est qu'il a une photo d'elle et lui sur son frigo.
Bah, il est toujours amoureux.
C'est le seul truc qui est expliqué, en fait.
Il n'a rien fait en l'espace de 20 ans.
Mais en fait, tous ces personnages n'ont rien fait en 30 ans.
C'est comme les Spider-Man qui reviennent dans Spider-Man No Way Home. C'est la même logique. C'est en fait, à partir du moment où effectivement. Alors là, je reviens sur ce que disait Rafik, les vocations, même que ces choses existent, le reste ne suffit. En fait, t'as plus besoin. T'as plus besoin de travailler ça.
C'est le gros problème.
En fait, apparemment, t'as plus besoin, ça cartonne quand même. On va voir ce que ça va faire sur Jurassic World.
Je sais pas, mais là, il y a eu des avant-premières, parce que nous, on était sous embargo, donc il n'y a pas eu forcément beaucoup de retours après la projection presse, mais il y a eu plein d'avant-premières publiques pendant tout le week-end, et j'ai pas vu un seul truc positif de tous les gens qui l'ont vu. C'était vraiment. Enfin, j'ai jamais vu un consensus pareil. Tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment nul, quoi. Pour un si gros. Une si grosse franchise, un truc si attendu, quoi.
Les anciens personnages ne racontent rien, les nouveaux encore moins,
mais en plus, moi je sais pas, il y a zéro alchimie en plus entre Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Enfin, ils ont l'air en plus très potes dans la vie et tout. Tu les vois, t'as l'impression que c'est deux étrangers. Et au début du film, il y a deux personnages là quand ils font leur Peta qui sauve des dinosaures là, et qui lui dit ouais, t'as toujours cette relation bizarre avec Owen et tout, et c'est vrai qu'elle est super bizarre. Tu te comprends pas ce qu'ils font ensemble, tu comprends pas pourquoi. Oui, il dit qu'il l'aime à un moment, quoi, mais tu comprends pas pourquoi, en fait, tu comprends jamais.
Mais déjà, les persos ils étaient incohérents, c'est à dire que le personnage, en fait, si tu veux, de Bryce Dallas Howard, elle était ultra corporatiste dans le premier. Bon, elle a changé.
Elle a fait comme John Hammond entre le premier et le deux Jurassic Park.
Voilà, et en fait, si tu veux, elle a changé, sauf que lui, en fait, il est revenu en arrière pour revenir en.
Maintenant, aujourd'hui, elle va libérer des bébés Triceratops dans des granges. Mais le truc, c'est effectivement, ils sont très impliqués, hein, quand même, les deux comédiens, puisque à ce que j'ai compris, c'est carrément elle qui a eu l'idée de sublime du marché aux dinosaures dans celui-ci. Mais je serais même pas étonné qu'effectivement, elle avait une liste de propositions délirante en mode ah, ça serait trop rigolo de faire ça, et que ils ont passé la liste en revue en se disant bah finalement on va le faire, essayer de nous trouver du lien, mais il y a même pas de lien. Moi je suis vraiment obsédé par cette question de la déconstruction,
mais en fait on avait ce problème là dans les Star Wars, en fait les derniers Star Wars c'est la même chose, et d'ailleurs ça me fait rebondir sur ce truc là parce qu'à la base c'était lui qui devait réaliser ce Star Wars épisode 9, en fait, et le truc c'est qu'il s'est fait virer, bon Dieu sait pourquoi, tu vois, enfin j'ai envie de dire parce qu'il est nul, mais en fait ils le reprennent pour Jurassic World, donc je vois pas pourquoi ça changerait grand chose, quoi. Mais surtout, en fait, c'est-à-dire que moi, là où je le rapprocherais même de Star Wars épisode 9, c'est que, en fait, t'as vraiment, moi j'ai ce sentiment en sortant du film, que personne ne voulait être là. Mais alors personne, c'est-à-dire que ce soit le réalisateur, que ce soit les acteurs, que ce soit tout le monde en fait. Ils se sont dit, bon, le précédent, il a cartonné, donc il faut qu'on fasse quelque chose là, parce qu'on ne peut pas rester sur une mine d'or là. Mais en gros, t'as l'impression que personne n'avait envie d'être là.
Alors, Trevor, c'est peut-être pour le pognon, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a autre chose qui le motive. Mais il avait, dès le Bayona, il avait dit qu'il voulait revenir pour le nouveau. Et encore une fois.
Parce qu'il s'était déjà fait lourder de Star Wars épisode 9.
Il y a un producteur comme Frank Marshall dans une production comme ça. Donc c'est des mecs qu'on prouvait par le passé qui savaient produire des films.
Congo.
Donc, quand on en arrive. Ouais, exactement. Mais Congo, c'est cohérent. C'est de la merde cohérente.
Non, c'est de la bonne merde.
Oh là là, ça y est.
Donc dans Congo, quand ils sont dans la jungle et que t'as un avion qui leur passe au-dessus en flamme, tu sais que ça fait référence à une scène qui s'est passée trois quarts d'heure avant. Mmh. C'est débile, mais il y a une structure aussi foireuse soit-elle, il y a une structure. Moi, c'est ça qui m'inquiète en fait. Je suis désolé de faire un parallèle sociétal sur lequel je vais essayer de pas m'apesantir, mais moi, ça m'a vraiment rappelé cette idée que depuis, je sais pas, 5-6 ans, on est régulièrement bombardé de news, d'informations qui sont en fait à chaque fois des chocs traumatiques totalement qui annulent et remplacent les précédents. Une surstimulation de l'actualité internationale sur laquelle notre attention est toujours prise, mais on oublie ce qui s'est passé il y a deux semaines en fait. Et je me dis mais c'est exactement ça que Hollywood nous offre aujourd'hui. C'est une demande express à ne te souviens pas de ce qu'on t'a dit il y a 5 minutes, quoi.
Un blockbuster en chasse l'autre.
C'est ça. C'est pas un récit qui demande la participation du public, mais en fait, qui demande sa parfaite soumission. Et ça, c'est vraiment, pour moi, la métaphore du film et du monde moderne, quoi. Enfin, vraiment,
le monde d'après.
Ne cherche pas le lien, ne cherche pas à comprendre ce qui t'arrive. C'est comme ça, et puis c'est tout. Ils sont en train de se battre au couteau, et il y a des dinosaures à côté qui les bouffent pas. C'est comme ça.
Bon, ouais, mais tu sais, enfin, moi, je suis désolé, mais en fait, quand t'arrives au stade, enfin, je suis désolé, mais dans, je suis d'accord avec toi, encore une fois, mais sur Jurassic World, t'avais la même chose. Il était en train de faire la course sur son vélo moteur avec les dinosaures à côté qui tracent. Enfin, c'est complètement con, ce plan. Quand tu réfléchis, quoi.
C'est un plan con, mais qui pouvait éventuellement se justifier dans Congo, dans l'intrigue. Mais là, on cherche même pas.
N'essaye pas de me prendre par les sentiments.
La justification, on te balance quelque chose à la tronche, et 2 minutes après, on va faire comme si on te l'avait jamais dit. Et toi, t'es là, tu fais non, vous me l'avez dit, je me souviens bien, ce pont était important. J'y reviens, je suis désolé, je vais faire chier jusqu'au bout de 2h20 de film, je suis encore en train de demander.
Tu n'auras jamais ta réponse.
Voilà, tu vois, mais c'est ça qui me rend fou.
Mais en fait, t'as l'impression que c'est des gens qui ont vu des films et qui remettent des passages obligés ou des espèces de clichés qu'ils ont vus dans d'autres films en disant tiens, là, on va faire traverser un pont, là, on va faire ça, on va faire ce genre de scène d'exposition parce qu'on l'a déjà vu. Mais en fait, comme tu dis, rien n'est relié entre eux. Et en fait, l'histoire avance scène d'action après scène d'action qui sont pas du tout reliées pour arriver à une espèce de relecture et de nouveau jeu à nouveau de Jurassic Park.
Mais si, avec des nouveaux personnages qui sont autant incohérents que les anciens. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, la nana, on parle Kayla, là, c'est ça, tu vois, elle les aide, tu sais pas pourquoi elle les aide.
Mais de toute façon, il y a
elle
beaucoup...
a vu l'autre en train de se faire kidnapper, elle a fait putain, je devrais faire quelque chose. Ah non, je fais pas quelque chose, bah, je vais aider les autres.
Non, elle le dit, on lui laisse 2 minutes pour dire je l'ai vu passer la gamine, j'ai rien dit, puis après. Je me suis dit, ah merde, quand même, je suis quand même une grosse salope d'avoir rien dit. Donc finalement, je vais décider de sacrifier ma vie pour vous, alors que je vous connais pas du tout. Ouais, bon.
Mais en fait, moi, ça m'a fait rire parce que pendant le film, je me suis posé certaines questions. Et les personnages les posent aussi. Et en fait, tu dis, c'est quand même pas très bon signe, justement, quand Chris Pratt.
Pourquoi
dans... Non, mais.
Parce que...
mais en fait, exactement, tu sais, quand ils sont à un moment, quand ils sont dans l'avion, là, qui récupère Chris Pratt, qui arrive avec sa moto, avec les dinosaures au cul et tout machin, là, déjà, cette scène qui est n'importe quoi, et qui s'assoit et qui prend la place là devant, et hop, ils s'en vont tous les trois là en avion et tout. Et tu vois, j'étais, mais pourquoi, en fait, pourquoi elle se fait chier à les aider, elle les connaît pas, dans la scène d'après, elle bute son avion et tout machin. Et justement, elle lui demande, pourquoi je vous aide alors que machin. Et là, elle sort, oui, bah en fait, et vraiment, c'est une justification nulle. Genre, je l'ai vu, j'ai rien fait, du coup, elle se rachète une rédemption, machin. Et tu dis, mais en fait, si vraiment vous êtes obligé de dénoncer comme ça les enjeux et les trucs et tout, c'est que vraiment, ça a pas de sens pour les mettre littéralement dans la bouche du personnage. Quoi.
En terminant sur le fait qu'elle est lesbienne, hein, quand même.
Ouais, en plus, c'est le personnage quota.
Réplique, c'est genre, bon, la comédienne, elle a littéralement 3 phrases pour construire son personnage. Ok, j'imagine qu'elle a dû répéter son.
Mais c'est
surtout que t'as quelqu'un qui a lu le scénar, qui leur a dit attendez, c'est qui ce perso, pourquoi il les aide? Ah, les mecs font merde. ils rajoutent trois trucs.
On l'a mis un post-it. En
fait, c'est qui cette nana? Elle a pas un mec qui l'attend quelque part? Alors merde, il va falloir trouver un truc aussi.
Moi, je me suis dit que c'était la justification de ah, elle se retrouve toute seule pendant une partie du film avec Chris Pratt, mais il ne se passe rien.
Oui, il y a ça aussi.
Et du coup, on va discard tout de suite la potentialité de quelque chose.
Sauf que t'en as pas besoin. Il est amoureux de l'autre. Enfin
mais,
bon.
Et, vois, mais en fait, mais
comme l'alchimie entre les deux autres ne marche pas.
Mais en plus, j'ai lu une interview de l'actrice qui joue ce personnage-là et elle est très fière de dire que elle a un background et que ouais, elle est lesbienne et machin. Enfin, elle est bi. Je crois qu'elle est pas lesbienne, elle est bi. Tu vois, genre c'est très précis. Mais en fait, tu dis mais en fait, je veux pas qu'on me le dise. Moi, je veux que elle soit en couple avec une meuf ou qu'elle mentionne ou ma copine m'attend machin ou j'en sais rien. Mais que ce soit pas.
Soyons fous que ce soit suggéré d'une façon habile et inattendue.
Ou qu'en fait, juste ce soit aussi juste pas une question. En fait, elle est en couple avec une personne qui s'avère être une femme et en fait, personne ne dit rien parce que. Je pense qu'en 2022, ça peut être à peu près considéré comme normal, tu vois. Mais non, en fait, il faut vraiment que ce soit le personnage post-it quota. En plus, on lui met le double truc du ah bah elle est noire et puis elle est lesbienne ou bi. Et tu dis mais c'est vraiment ça ne sert à rien quoi.
Et ça c'est pour se justifier en fait de pas avoir il y a 2, 3, 4, 5 personnages blancs hétéros en fait en tête d'affiche en gros. Donc en fait, si tu veux, les mecs font merde de temps. On va faire notre affaire, tu vois.
Oui, mais en fait En vrai, pour une question de représentation, tu peux intégrer des personnages gays, lesbiens, machin, mais sans en faire un trait de personnalité, quoi.
J'aurais bien aimé qu'ils intègrent des vrais dinosaures, tu veux.
Et puis des singes.
Ouais, et des singes, mais bon, là, on n'est pas dans le même film, tu vois. Ça serait pas la planète des singes, j'aurais dit, bon, il n'y a pas de singes, ça manque de singes. Mais, si tu veux, à la base, j'aurais aimé que les dinosaures, ce soit vraiment des dinosaures, et pas, encore une fois, des animaux de compagnie.
Est-ce
quoi,
qu'on
tu
parle
vois,
de ce dinosaure à plumes qui est aussi un dinosaure poisson, amphibie, enfin, je sais pas exactement.
Ils ont voulu être peut-être un tout petit peu plus proche de la réalité, puisqu'il paraît que les dinosaures, en vrai, avaient des plumes plutôt que des écailles.
Apparemment, les raptors ressemblera à des grosses poules.
C'est ça. Ouais, mais tout de suite, ça fait vachement moins peur.
Ouais, les poules, c'est un peu flippant.
Moi, je sais pas. Pour moi, ce film, c'est le renoncement, en fait. Et vraiment, en fait, c'est même pas que le renoncement du spectateur, c'est le renoncement du mec qui fait le film. Parce que, grosso merdo, on parlait de la scène d'ouverture, mais la scène d'ouverture, en fait, c'est une présentation YouTube. C'est le truc où tu te dis, attends, on parle d'un film qui représente le cinéma, Jurassic Park, et on arrive à une scène que tu pourrais voir sur YouTube.
Mais ça, ces scènes, elles étaient déjà dans le court-métrage.
Tu sais que c'est devenu une convention, en fait, d'utiliser l'imagerie YouTube pour entre guillemets évoquer la réalité, parce que si c'était vraiment un truc qui nous arrivait, on aurait des images YouTube de ce truc-là. Dans Pacific Rim, t'avais déjà.
Sauf que dans Pacific Rim, en fait, c'est vraiment fait pour te faire rentrer dans un univers. Globalement, t'as pas eu de film avant. Là, t'en as eu 5, si tu veux. Donc, en fait, bon, je suis désolé, mais tu vois, ils avaient déjà 2 films pour le mettre en place, ce truc. C'est là où, en fait, je trouve qu'il y a un vrai truc de renoncement et puis surtout de trucs de petits bras, quoi, en fait. Tu vois, tu peux pas te comparer à Spielberg, ça, c'était une évidence, tu vois. Mais là, putain, c'est la démonstration, quoi.
Eh bien, nous allons nous arrêter ici et renoncer à terminer.
Je crois que tout le monde a compris que c'était un grand film et qu'il fallait absolument voir tout à fait.
Moi, Rafik, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit quel chef-d'œuvre. Quand est-ce qu'on enregistre? J'ai hâte.
J'avais vraiment hâte d'être.
Je pense que c'est vraiment la pire chose que j'ai vue cette année et que j'ai vue depuis longtemps. Moi, j'essaie toujours de trouver 2-3 petites choses positives et tout.
Et Marie, sur Morbius, tu nous as fait faux bon sur Firestarter.
C'est vrai. Non, mais vraiment, oui, mais celui-là, je l'attendais. Mais tu vois, sur les précédents que j'avais pas aimé, il y avait au moins un ou deux plans à sauver. Là, il y a absolument rien à sauver, quoi. C'est d'une tristesse. Enfin, ce que tu dis, c'est le renoncement total, quoi.
Bah, nous renonçons. Mais si vous ne renoncez pas et que vous voulez vous faire votre propre avis, Jurassic World, le monde d'après, est sorti en salle ce mercredi 8 juin. C'est la fin de cette émission, ça veut dire que c'est le moment du répondeur. Vous avez vu le dernier Jurassic World et vous avez des choses à dire, ça tombe bien, on a très envie de vous entendre. Même si vous n'êtes pas d'accord avec nous, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous. Vraiment, si vous avez aimé le film et que vous faites partie des rares personnes, des rares survivants qui ont apprécié.
Si vous avez envie de dire du mal de Stéphane...
Pourquoi ?
Pour ça.
Mais parce que on attend que ça en fait.
En ce moment, c'est le moment. C'est parce que j'ai dit quelque chose sur. J'ai même pas parlé de Top Gun Maverick. J'aurais pu.
Ou alors.
Je me suis dit, j'ai pas trollé.
Moi, c'est ce qui me motive à lire les commentaires sous les vidéos YouTube. Est-ce qu'il se fait dober dessus ?
Si vous voulez nous laisser des commentaires gentils, des commentaires méchants, des lettres d'amour ou votre propre critique du film de la semaine, pour ça, c'est très simple. Enregistrez un message vocal et envoyez-le sur notre mail saletempsporlerepondeur@gmail.com. On le passera dans la prochaine émission.
Et chier sur Rafik un peu aussi, parce que lui aussi il a la chemise ouverte.
Je me sens un peu délaissé à ce niveau-là, c'est vrai.
La semaine dernière, on vous parlait de Firestarter, adaptation décevante du roman de Stephen King. Alors vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? On écoute ça tout de suite.
Salut Capture Max, c'est Jérôme. Firestarter, c'est pas non seulement le pire film de l'année, le pire film de la décennie ou le pire film de adapté de Stephen King. C'est une honte qui ne... Enfin, je préfère me mater encore un téléfilm de Noël sur M6.
Ça tombe pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Marie, Rafik, Stéphane, merci.
Merci Clémence.
Et puis merci Alain à la technique.
Salut.
Et enfin, merci à vous qui nous écoutez et qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines émissions. Et si vous voulez nous encourager, qu'on planche sur d'autres émissions de qualité, n'attendez plus. Rendez-vous sur patreon.com ou sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. C'est grâce à vous qu'on continuera à grandir et qu'on restera indépendant. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez aussi nous aider à nous faire connaître. Parlez de nous à vos amis, relayez nos émissions sur les réseaux sociaux et mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, on compte sur vous. Allez, je vous laisse, on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode de Sale Temps pour un film. Salut!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Marc Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Marc.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.